Les Nuits de France Culture. Les Nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Savait-elle qu'il vivait sous terre, sous sa terre, sous ses pieds, à 7 mètres du sol précisément? On ne le saura jamais, tant mieux dans un sens, cette interrogation entretient le mystère. Mais il y a tant de mystères autour de cette histoire souterraine. Le vif du sujet, par Olivier Chaumel, première diffusion sur France Culture, le 16 mai 2006.
Le vif du sujet.
Il faut imaginer une maison donc, qui donne sur la rue avec un jardin derrière. Sur la gauche du jardin, à 3-4 mètres de la façade de la maison, complètement sur la gauche, il y a une petite cabane comme un cabinet de toilette vieillot en planche dans lequel il y a ce fameux puits qui ne sert plus, qui est sec. Au fond du puits, un premier conduit qui part... vers le sous-sol. On descend de quelques mètres, il y a un premier palier. On redescend de quelques mètres, il y a un deuxième palier. Et là, on finit par aboutir à une pièce. Ce qu'ont trouvé les enquêteurs dedans, c'est encore plus bizarre. C'est-à-dire que il y avait des appareils électriques, un réchaud à gaz, une lampe, il y avait des étagères... posé ou accroché au mur, il y avait une espèce de paillasse comme un matelas qui servait à dormir. Et puis ils ont retrouvé pas mal de bouquins et dont des livres qui recouvraient partiellement plus ou moins le corps.
Voilà un fait divers d'aspect extrêmement complexe. Mais peut-être pas, ou beaucoup moins qu'il n'y paraît. Il exige en tout cas une grande rigueur de raisonnement, ne serait-ce que pour relier entre eux les éléments qu'ils composent et émettre des hypothèses de départ satisfaisantes. Or, les descriptions des lieux et des faits qu'on peut glaner sont quelquefois lacunaires, allez savoir pourquoi, et certaines assertions semblent bien émaner de la rumeur la plus hasardeuse. Qu'à cela ne tienne, prenons le risque de nous perdre un peu dans les zones les plus opaques de la perplexité. La cathédrale Sainte-Cécile d'Albi est d'une belle et sévère majesté, voilà au moins un fait certain. C'est dans le département du Tarn que cette histoire se déroule. L'homme qui vivait dans sa tombe. Yvon Croisier, Olivier Chaumel.
C-H-A-U-M-E-L. Voilà, il passera demain matin récupérer ça. D'accord, c'est parti. Une rue déserte, une maison tranquille, une cabane de jardin avec un puits. Et au fond du puits, une galerie qui descend à 3 mètres sous terre pour déboucher sur une sorte de logis équipée d'une paillasse et dans le logis, un squelette. C'est la découverte macabre faite par un ami de la nouvelle propriétaire. La maison appartenait à sa mère. Elle n'avait plus de relation avec elle depuis des années. La maman est décédée, il y a un an et demi, et elle a donc hérité de la maison. Peu à peu, la fille a donc entrepris de nettoyer la maison, le jardin, la cabane et le puits, envahi de toutes sortes de bric-à-brac. C'est en nettoyant le puits que l'ami a découvert l'existence de la galerie qui l'a conduit jusqu'à cette sorte de logis souterrain. Le cadavre pourrait être celui du frère disparu depuis 1991. Une enquête est naturellement ouverte pour savoir qui est le cadavre, comment il est mort et les raisons de sa présence souterraine. Quant aux voisins, ils n'ont rien à dire sur la vieille dame qui ne recevait jamais personne et passait, disent-ils, ses nuits sur Internet. Toulouse, Frédéric Bourgade, France Inter.
Quel est le protocole lorsqu'on découvre comme ça un squelette anonyme? Quelles sont les observations qu'on fait dans l'ordre, Michel Durigon?
Alors dans l'ordre, quand on trouve quelqu'un d'anonyme, on essaye déjà de lui donner un nom. Alors pour lui donner un nom, vous savez, c'est le protocole classique, c'est-à-dire qu'on va essayer d'examiner le squelette et de déterminer toutes les caractéristiques et de les comparer aux gens disparus potentiellement pouvant être la personne. Donc la taille, le sexe, les signes particuliers, on fait des radiographies, on compare. Mais il faut des éléments de comparaison. Si on n'a pas d'éléments de comparaison, on ne peut pas identifier. ça c'est sûr. Et on pourra seulement dire, c'est un homme, ça on arrive assez facilement à le faire, surtout avec un squelette complet. Donc c'est un homme de tel âge, alors l'âge déjà on est un petit peu plus flou, ça dépend. Si c'est un tout jeune, on arrive à avoir un âge très précis. Si c'est quelqu'un de plus de 20 ans, la fourchette commence à s'élargir. Et s'il a plus de 40 ou 50 ans, alors là la fourchette est beaucoup plus large. Pour déterminer l'âge, on arrive à déterminer l'âge à 5-6 ans près, environ plus ou moins 5 ou 6. Donc c'est déjà une fourchette, c'est 10 ans, hein. C'est quand même assez large. Donc c'est ça qui va donner l'âge. Et ensuite, les caractères particuliers, si on a la chance d'avoir une fracture, un cale de fracture, une anomalie particulière, et puis les dents sont un excellent élément pour ensuite identifier le sujet.
Jérôme Schrepf, vous travaillez à la Dépêche du Midi, à la locale d'Albi. La Dépêche du Midi, c'est le journal de Toulouse. Et on est rue Montaudry, à Albi, dans un quartier faubourien de la ville. On n'est pas dans le centre historique, disons. On est devant le 15, une maison un peu lépreuse, mais c'est là que ça se passe.
Oui, la rue Montaudry, en fait, elle est effectivement à deux pas du centre-ville. Et on se trouve dans une petite rue qui paye pas de mine, avec des maisons aux façades d'un étage, un peu grises, qui sont pas très accueillantes, les volets sont souvent fermés. Et en même temps, il y en a quelques-unes qui sont bien refaites. Celle du numéro 15, en revanche, elle est complètement décrépie. Les volets sont une espèce de jaune baveux, pour pas dire pisseux, au rez-de-chaussée. À l'étage, les volets sont entrouverts, mais pas en bon état. Et la porte, les vitres ont été cassées. Et puis on a mis du carton derrière pour pas qu'on puisse voir à l'intérieur.
Cette histoire est un problème, Jean-Christophe Muller, plus qu'une affaire judiciaire. Mais vous l'avez néanmoins en main, en tant que procureur.
C'est une affaire, effectivement, c'est un fait divers qui, comme tout fait divers, concerne des faits avec la difficulté qui sont les leurs et une appréhension judiciaire ensuite pour aller rechercher derrière ces faits quelles sont les certitudes et les éléments de vérité qu'on peut rechercher. C'est ça qui fait la particularité de cette affaire, où pour l'instant, les éléments qui posent question, les éléments d'interrogation, d'incertitude judiciaire, mais aussi factuels, familiaux, sociaux, etc., sont plus importants que les certitudes qu'on peut avoir sur leur contexte. On est avec cette affaire dans un contexte familial. Beaucoup des affaires, et peut-être la majorité des affaires que traitent les tribunaux et les parquets, sont des affaires qui se situent dans le contexte familial. Que ce soit malheureusement des violences physiques ou sexuelles. Bref, la cellule familiale est un élément tout à fait majeur de l'intervention judiciaire. La particularité du contexte familial de cette affaire est qu'on est en face d'un contexte extrêmement chaotique, extrêmement en ligne brisée, avec une histoire familiale extrêmement complexe, qu'il est d'autant plus difficile de clarifier que, par leur nature, ces faits nous obligent à remonter très très en amont dans la chronologie.
On est devant cette troublante histoire du squelette de la rue Montaudry à Albi, René Alladay. En fait, je vous proposerais volontiers quelque chose qui ressemble à l'exercice difficile de l'analyse rétrograde aux échecs. L'analyse rétrograde, c'est on a une position et puis on va essayer de déduire les coups qui ont été joués avant et qui ont amené à cette situation. Alors peut-être vous pouvez donner les premiers éléments de l'histoire qui nous intéresse.
Et les premiers éléments, ils sont assez simples. Donc l'été dernier, donc à l'été 2005, on trouve donc à Albi, donc dans la rue Montaudry, dans un réduit qui se trouve à environ 7 mètres en dessous du sol, donc un réduit souterrain sous une maison, le squelette d'un homme dont l'identité n'est pas à ce jour encore clairement établie, mais qui pourrait être donc un homme qui s'appellerait Guy Vidal et qui serait le fils de la femme qui habitait la maison, qui se trouve donc quelques 7 mètres donc en surface, quelques 7 mètres au-dessus du réduit. Ce squelette donc a été découvert par celle qui serait, donc, si cet homme est Guy Vidal, la demi-sœur de cet homme, à la mort de sa mère lorsqu'elle a hérité de la maison. Donc, pour une affaire a priori évidemment extrêmement mystérieuse en fait, et qui se ramifie. Votre comparaison avec les échecs est particulièrement heureuse, hein, parce que on est effectivement comme face à toute position d'échec ou problème d'échec, face à une énigme, face à quelque chose à résoudre, avec une quantité très importante de variantes possibles, de branches possibles d'analyse. C'est une affaire qui, dans la presse, hein, qui a traité l'affaire, bon, l'idée de fiction revient souvent, hein, l'idée que l'histoire est romanesque, que ça forme la trame de ce qui serait un excellent film, quelqu'un cite Chabrol quelque part. Bon, et effectivement, c'est particulièrement romanesque et ça se prête bien à la fiction. Il y a une grande quantité d'hypothèses possibles, mais il n'y a qu'une seule vérité. Il n'y a qu'une seule, comme dans une position d'échec, dans un problème d'échec, il n'y a qu'une seule solution.
Vous n'avez pas été un peu sceptique tout au début, Jérôme Schrepf, l'histoire étant véritablement sidérante dès qu'on y entre?
Alors, à vrai dire, je suis arrivé au journal le matin. Il y avait déjà eu un coup de fil de Toulouse disant qu'on avait retrouvé un squelette dans une maison. Et voilà, le dimanche, on est seul de permanence. Et donc la première réaction, c'était de souffler et de dire qu'est-ce que c'est encore cette histoire. Donc j'ai appelé le collègue de Toulouse qui m'a expliqué. Voilà, ça paraissait un petit peu pas forcément digne d'intérêt, quoi. C'est, sur le moment,
vous avez flairé l'anecdote,
quoi. Ouais, voilà, c'était pas. Et puis, la journée avançant, recueillant des infos, voilà, ça prenait une tournure un petit peu plus exceptionnelle que ce qui paraissait, notamment par le fait que, voilà, le squelette en question était dans une pièce qui était souterraine et secrète et que personne connaissait, surtout pas la propriétaire qui avait fait la découverte.
Vous pouvez raconter, résumer l'histoire, donner les premiers éléments?
Alors, chronologiquement, en fait, peut-être ce dont il faut partir, c'est de la première propriétaire de la maison, c'est-à-dire Françoise Bolesteros, qui a dû acheter la maison en 85 ou 86. Elle y a vécu jusqu'en 2004, année où elle est décédée, à 60-61 ans. Et quand elle est venue s'installer au milieu des années 80, elle est venue avec son fils Guy Vidal, qui porte le nom de l'ex-mari de Françoise. Et donc elle est décédée. Quand elle est décédée en 2004, il y a eu une succession qui a été organisée. Donc il a fallu retrouver des héritiers. Il se trouve qu'elle avait non seulement un fils avec qui elle était installée, mais dont on n'a plus de nouvelles. Quand je dis on, c'est la famille, plus personne n'a de nouvelles depuis le début des années 90-91. Que plus personne n'a revu, que les gens du voisinage ici ont jamais rencontré, dont elle ne parlait pas. Et elle avait aussi une fille qui s'appelle Marie-Claude, et c'est elle habite à Albi, pas très loin d'ici. Et donc elle, ça a été très facile de la retrouver, donc la succession s'est établie comme ça. Mais pour autant, j'ai pas les détails, mais j'imagine que le notaire a dû faire une recherche. Il y a eu une recherche dans l'intérêt de la famille, c'est comme ça que ça s'appelle juridiquement. Le but de cette recherche, c'était de retrouver justement Guy Vidal, dont plus personne n'avait de nouvelles.
Apparemment, Guy Vidal n'a plus donné signe de vie depuis 1991, Gabriel Roulenc.
Oui. Alors, les années 90, on n'a plus de nouvelles. Enfin, nous avons été alertés par le ministère de l'Intérieur. Il y avait un avis de recherche dans l'intérêt des familles, mais sans suite, moi, on n'a pas eu. On n'a pas su davantage.
Et la recherche avait été demandée par qui?
Ah, je ne peux pas vous dire, je ne le sais pas.
Et la gendarmerie est venue le chercher, à son dernier domicile connu, c'est-à-dire ici.
La gendarmerie est venue?
Lorsque Guy Vidal n'avait pas fait son service militaire.
C'est ce qu'on avait dit à l'époque, mais je pense qu'il l'a fait quand même. Il a régularisé sa situation. J'ai cru savoir. Donc, terminé comme ça, enfin, ça a l'air de se passer, on sait pas, on s'interroge, moi. J'ai du mal à croire, mais enfin...
Qu'est-ce que vous avez du mal à croire?
Ben, cette réalité, qu'il ait pu terminer sa vie comme ça, dans un souterrain, puisque c'est ce qu'on a dit.
Oui.
C'est pas...
On a effectivement du mal à y croire. Et puis on peut même se demander si c'est vraiment la réalité.
Bien sûr, moi. Je suis perplexe devant tout ça. Enfin, mais, je sais pas. Parce que la maman, certainement, était au courant de cette situation, d'après ce qu'on dit. Puisque ça s'est passé chez elle, enfin, dans le jardin. Je sais pas. Je ne suis pas suffisamment détective pour avancer des solutions plausibles, comme on dit, ça, je ne sais pas. Moi, je le trouve quand même, c'est une affaire un peu grosse. C'est comme ça. Je pense que... Je sais pas, moi je m'interroge. Jusqu'à la fin, je resterai sceptique.
Le début de l'histoire, c'est la découverte d'un corps dans un endroit souterrain et invraisemblable. Et assez vite, on envisage le fait qu'il puisse s'agir de Guy Vidal, le fils de l'ancienne propriétaire de la maison. Instantanément, presque. Jean-Christophe Muller.
Intellectuellement, c'est effectivement la première conclusion à laquelle on aboutit. On a quelqu'un dont on a perdu la trace il y a une quinzaine d'années, dont on retrouve des restes dans une maison qui appartenait à sa mère. Voilà, donc intellectuellement, la conclusion, comme vous le suggérez, s'impose assez logiquement. La difficulté, c'est que jusqu'à présent, et scientifiquement, et au regard donc notamment des analyses d'ADN, cette certitude intellectuelle n'est à ce jour pas corroborée par une certitude scientifique. Elle va l'être. Elle va l'être dans les prochaines semaines, car malheureusement, ce sont des expertises scientifiques longues et complexes. Mais pour l'instant, on n'a que cette certitude intellectuelle et pas encore cette certitude scientifique.
Le cadavre est toujours officiellement anonyme.
Juridiquement, pénalement, les restes humains ne sont pas identifiés.
Michel Durigon, vous êtes médecin légiste. La médecine légale, c'est un peu une spécialité qui consiste à essayer de faire parler les morts, ce qui n'est pas toujours très commode. Et j'ai à vous présenter, de loin, un squelette qui paraît particulièrement peu loquace. Alors, on le trouve à 7 mètres sous terre, dans un réduit aménagé sous une maison de ville. L'environnement est obscur, la température constante, humide. Mais c'est un endroit où on peut presque vivre. Donc ce que je vous demande, c'est de tenter, à distance, d'estimer la date et les causes de la mort de cet homme. On sait qu'il s'agit d'un homme et qu'il a, disons, une trentaine d'années.
Alors là, quand on fait la médecine légale, on a presque envie de dire que c'est peut-être pas tellement la médecine légale qui va donner les renseignements les plus pertinents, mais plus l'environnement, l'enquête... Les strates, c'est un petit peu comme en matière d'archéologie où on va dater les, les squelettes qu'on trouve, non pas tellement par le squelette lui-même, mais par l'environnement, les coquillages, les racines, etc., etc. Parce que le squelette, comme vous avez dit, il ne parle pas beaucoup. C'est rare, hein, les squelettes qui parlent. Alors là, votre squelette, il était... Enfin, le sujet était habillé encore ou nu, non, il était...
Il est habillé, si on peut dire. Et puis, c'est la rumeur qui nous décrit un peu ses vêtements. Cet homme d'une trentaine d'années aurait porté des sous-vêtements féminins, du genre affriolant.
Oui.
Et puis, il serait harnaché avec des systèmes de lanières, peut-être le secteur électrique. L'électricité arrive non loin de lui.
Ah oui. Donc là, il y a un contexte un petit peu particulier qui évoque, enfin qui fait évoquer des histoires sexuelles, etc.
Si vous voulez, je peux vous décrire un peu plus avant l'environnement dans lequel on l'a trouvé. Donc c'est une pièce parallélépipédique de 6 ou 7 mètres carrés au sol. On peut se tenir debout dedans. Il y a des étagères au mur. Les livres sont en désordre, mais ils sont là. Ils recouvrent partiellement le cadavre. Il y a un ventilateur, l'électricité arrive donc, un réchaud à gaz, quoi d'autre?
Il y a l'eau, le gaz et l'électricité, alors un petit peu, donc comme dans les immeubles classiques.
Il n'y a pas l'eau.
Mais donc c'est un réduit, il n'est pas enterré, il est dans une pièce qui est en profondeur, qui a été creusée en profondeur, une espèce de super cave, quoi, de cave très profonde. Alors qu'est-ce qu'il peut y avoir pour essayer de déterminer l'ancienneté d'un cadavre comme ça, d'un squelette? Au niveau biologique lui-même, on n'a pas d'éléments qui permettent de dater et on est obligé de s'attacher à l'environnement là aussi. Alors tout à l'heure, je vous parlais des coquillages, etc. Bon, là, il n'y en a pas, bien sûr, puisqu'il n'y a pas de strates qui pourraient être datées. Donc il y a les insectes, éventuellement les insectes. Mais c'est un lieu noir, apparemment. Enfin, il y a l'électricité, mais c'est noir. Donc il y a peu d'insectes. Et la chronologie que l'on peut faire de temps en temps avec la faune, qui est un bon moyen à l'air libre, enfin un bon moyen dans des endroits où on connaît l'évolution normale, cyclique, avec les saisons, etc., des insectes, là, c'est sans doute pas applicable. Donc on n'a pratiquement pas de moyen de déterminer l'ancienneté d'un squelette. Pratiquement pas.
Il y a des revues autour de lui qui sont datées.
Alors là, évidemment, les revues, c'est l'idéal. Enfin, c'est l'idéal. C'est, disons que le décès ne peut pas être antérieur
à la parution,
ou difficilement. Enfin, ça paraît, à moins que quelqu'un d'autre, bien sûr, ait ensuite soit descendu. Mais là encore, c'est pas de la médecine, c'est de la police. Si quelqu'un descend et va acheter le Parisien du jour, là, on est un petit peu gêné. Sinon, vraiment, honnêtement, on n'a pas de moyens. Et quand on estime les anciennetés de décès comme ça, c'est pas beau de dire ça, mais c'est un petit peu pifométrique. C'est l'habitude, parce qu'on en a déjà vu, qui ont 1 an, 2 ans, 3 ans, et on se dit, bah oui, ça ressemble un petit peu à ce qu'on a vu dans telles conditions. Donc c'est plus de la comparaison, mais qui n'est pas scientifique, plutôt que des méthodes scientifiques. On n'a pas de méthode scientifique.
Et classiquement, un corps humain devient un squelette en combien de temps? Dans les conditions que je décris.
C'est une cave, enfin c'est une cave à vin, enfin l'équivalent d'une cave à vin, de 10 degrés dans ces températures-là. Alors à cette température-là, c'était un monsieur qui était obèse, qui était gros, on ne sait pas, il était normal, de taille moyenne. Combien de temps faut-il? Habituellement, il y a une putréfaction qui survient, même à 10 degrés. Le cadavre donc gonfle, putréfie, se liquéfie. Le jus de cadavre, entre guillemets, s'écoule, c'était de la terre, sans doute au sol, donc s'écoule. Donc on se retrouve, c'est un équivalent de caveau, mais de grand caveau. Donc c'est plusieurs années avant que ce soit totalement squelettisé, plusieurs années.
L'endroit où le corps a été découvert est situé dans une cavité qui est sous la maison, à laquelle il était possible d'accéder par un conduit débouchant dans le puits qui se trouvait dans le jardin, mais selon toute vraisemblance, l'aménagement de cette cavité, enfin de cette succession de 3 cavités, a été fait de façon, j'allais dire, un petit peu artisanale et à partir d'une ouverture pratiquée de l'intérieur même de la maison.
Mais c'est tout de même assez sophistiqué. C'est étayé, et aménagé. C'est plus un refuge presque habitable. Presque, parce qu'il n'y a pas d'eau. On se demande comment venait la nourriture.
C'est effectivement assez élaboré, tout en restant encore une fois une conception assez artisanale. Hein. Mais effectivement, il y a des aménagements, enfin, au premier rang desquels l'électricité, et aussi des aménagements qu'on retrouve dans n'importe quelle chambre, des étagères pour ranger des livres, un lit pour se coucher. Même si tout ça reste évidemment très sommaire.
Ça peut être intéressant d'avoir l'inventaire des livres. La bibliothèque d'un homme en dit beaucoup sur l'homme en question, Jean-Christophe Müller.
Il est possible de répondre à ça en dépit du caractère assez dégradé de ce qu'on a pu retrouver dans ce souterrain, en raison évidemment de l'humidité et des conditions de conservation. Mais on a retrouvé des ouvrages d'étudiants, on a retrouvé des revues générales. Bref, j'allais dire ce qu'on retrouve, ou en tout cas ce que l'on a tous plus ou moins dans les recoins de nos maisons.
Les revues peuvent être datées ?
Oui, tout ça est daté de la période contemporaine de celle qu'on suppose être la mort.
Et le contenu des ouvrages en question ?
Le contenu des ouvrages en question, c'est on a des cours, effectivement, enfin des polycopiés universitaires. On a des ouvrages sur mai 68, des ouvrages sur l'armée, le service militaire, plutôt dans une perspective contestataire d'ailleurs, mais enfin rien qui, encore une fois, par son caractère, ça éclaire sans doute la personnalité de celui qui vivait dans cet endroit, mais enfin ça n'appelle pas en soi une attention ou en tout cas des soupçons particuliers.
Alors moi, en fait, j'étais parmi les premiers, enfin le premier à m'intéresser à l'affaire, puisque j'étais sur Albi. Et très vite, le chargé de l'enquête ici m'a tout de suite aiguillé sur Guy Vidal. Je pense aussi parce que c'était la première idée à laquelle a abouti Marie-Claude Vidal. C'est-à-dire, elle n'avait plus de nouvelles de son frère. Elle avait retrouvé les papiers d'identité, le permis de conduire, la carte d'identité de son frère dans la maison, pas dans le réduit, mais dans la maison, sans doute dans la chambre qu'il devait occuper, qui était la sienne quand ils sont arrivés ici. Et donc les policiers, eux, sont venus, se sont... Les policiers ont procédé aux constatations normales. Il y a une équipe de la police scientifique qui est venue faire des prélèvements, emmener le squelette pour le faire analyser, recenser les objets qu'il y avait à l'intérieur, délimiter la scène de la découverte, faire des prélèvements. Je pense qu'ils ont dû perquisitionner aussi la maison pour voir s'il y avait des choses à découvrir à l'intérieur. Ils ont notamment saisi le disque dur de Madame Bolesteros pour y chercher éventuellement, puisque elle passait d'après son voisinage beaucoup de temps sur Internet et sur son ordinateur pour voir si jamais dans son ordinateur il pouvait y avoir des indices qui puissent éclairer l'enquête.
Et ça, comme le reste, ça ne mène à peu près nulle part.
Non, là, à nouveau, on arrive dans un mur. Sur le disque dur, ils ont trouvé un journal intime dont on n'a pas eu connaissance parce que ça n'indique rien sur l'identité de la personne, même sur le réduit dont apparemment elle ne parle pas. Et donc, on peut aussi se poser la question de savoir si elle était au courant de cette pièce Deux, si jamais c'est son fils. Est-ce qu'elle était au courant que son fils, si jamais c'est lui, vivait une partie de son temps sous la maison, s'il avait l'habitude d'y aller, ce qu'il y avait dessous, enfin tout ça.
J'ai fait faire une expertise par un expert en bâtiment de ce souterrain pour comprendre dans quelles conditions ça avait pu être fait. Bon, a priori, on est sur quelque chose qui aurait une vingtaine d'années d'ancienneté en se basant sur l'état de la peinture, sur l'état de moisissure, d'un certain nombre de choses. On a aussi la certitude que tout ça a été fait plus par un bricoleur du dimanche que par un professionnel de la construction. Mais tout ça est cohérent en ce qui concerne la date vraisemblable de construction et donc d'utilisation de ce réduit.
Il s'agit d'un travail considérable. Est-ce qu'un homme seul aurait pu se livrer à ces travaux-là ?
Il est impossible de prétendre qu'il faille absolument être plusieurs pour construire ça, mais manifestement a été utilisée une cavité déjà existante qui a été étayée, soutenue par un certain nombre de choses, et on est sur quelque chose qui, en dimension au sol, si je puis dire, doit pas excéder 5 mètres de long sur 2,50 mètres de large. Donc on n'est pas sur quelque chose... il ne s'agit pas d'une réplique, en quelque sorte, d'une habitation qui aurait été construite de façon souterraine.
Il y a un expert architecte qui moi, m'a expliqué qu'en fait, il y avait des poutrelles de béton. Les poutrelles doivent faire quelque chose comme 2 ou 3 mètres de long. Donc non seulement c'est lourd à porter, mais en plus, c'est compliqué à descendre. Enfin, tout ça, ça ajoute aux questions qu'on peut se poser, à l'étrangeté.
Ça date l'endroit aussi un peu.
Ouais. Alors, d'après le même expert, lui, il pense pas que le réduit date de plus de 20 ou 25 ans. Donc, une vingtaine d'années, ce qui fait que ça nous ramène dans le milieu des années 80. Et on se retrouve à nouveau, c'est un autre élément qui ramène à l'arrivée de à la famille Bolesteros-Vidal dans la maison.
Gabriel Roulinque, vous êtes le parrain de Guy Vidal.
Exactement.
Il est né dans votre commune, à Barre, à l'extrême-est du département du Tarn. Quelle a été votre réaction à la lecture des premiers articles qui ont paru sur cette affaire du squelette d'Albi ?
Cette affaire m'a beaucoup attristé, étant donné que la maman était restée quand même près de 20 ans, enseignante ici, et qu'elle avait quand même bien éduqué nos enfants, notamment mes filles, quand j'étais à l'école primaire avec elle, en avait gardé un excellent souvenir. Bon, en arriver à ce drame-là, c'est quand même... C'est pénible, très douloureux pour moi. Voilà. On est même surpris, mais...
Françoise Bolesteros était institutrice. Elle avait une petite vingtaine d'années lorsqu'elle est venue s'installer ici.
Exactement. C'était en septembre 1963. Le maire de l'époque n'habitait pas sur place et m'avait demandé de l'accueillir. Ce que j'ai fait, c'était dans le courant septembre, une personne d'une grande stature qui s'habillait toujours avec des vêtements amples. Bon, je l'ai accueillie et puis elle m'avait fait bonne impression. Et voilà qu'un mois après... Évidemment, après avoir arrêté les cours pendant 2 ou 3 jours, elle avait mis au monde Guy Vidal. Alors évidemment, tout ça, ça nous a bouleversés. Et le médecin que nous avons appelé à ce moment-là nous dit « Faut pas compromettre la carrière de cette jeune enseignante, puisqu'elle arrivait de l'école normale. Nous n'avons rien dit au village. » Mais on ne lui a pas tenu rigueur, étant donné qu'elle était une excellente pédagogue, qu'elle enseignait bien aux enfants. Elle était vraiment très, très intéressante. Mais... elle avait un côté spécial dans la mesure où elle avait un double personnage, si on peut dire. Elle avait les 2/3 de sa personne et c'était très bien, mais après, il y avait quelque chose de secret en elle qu'on n'a jamais pu percer. voilà. Mes filles ont été à l'école et Dieu sait si elles en ont gardé un bon souvenir, malgré la sévérité qu'elle avait. Voyez, elle appartenait quand même à la génération où on éduquait les enfants avec un peu de sévérité, alors que maintenant, il ne faut rien dire aux enfants. Enfin.
Est-ce qu'elle vous a expliqué les raisons pour lesquelles elle a caché sa grossesse ?
Absolument pas. Non. Non, non, non. D'ailleurs, nous ne l'avons pas évoqué, nous l'avons accueilli, humainement parlant, comme on dit. Ce n'est pas des questions à poser.
Et puis, c'était il y a 40 ans. Le point de vue moral de la population n'était peut-être pas aussi tolérant, ou peut-être l'avait-elle perçu comme ça ?
Je ne sais pas. Je n'avais pas tellement analysé la situation, parce que ça nous avait quand même bouleversés. On ne comprenait pas qu'une personne, enfin instruite, parce qu'elle était très intelligente, en soit arrivée à garder cet enfant dans ces conditions, et à le mettre au monde seul, vraiment. Ouais. Et puis quand l'enfant est venu, il a grandi, il a fait le primaire ici, il était espiègle comme tous les enfants, plus ou moins. Il avait peut-être un côté un peu farfelu, si on peut dire. Mais enfin, et puis il est parti faire du secondaire, et puis voilà que la maman s'est remariée entre-temps. Elle a épousé un monsieur d'ici de Bar, et il y a eu une demi-sœur qui est arrivée, Marie-Claude, qui est en vie, qui est sur Albi. Voilà, qui elle, évidemment, est très profondément meurtrie par cette affaire-là.
Parce qu'elle ne sait pas trop quoi en comprendre.
Ah ben oui, elle ne sait pas certainement que comprendre. Personne ne peut comprendre cette situation. Ça va rester un mystère jusqu'au bout, j'ai l'impression. D'autant que ce qu'on a trouvé à lui, sait-on vraiment si c'est le squelette du demi-frère ? Question.
Ce qu'on peut dire, c'est que Guy Vidal, qui est très vraisemblablement l'homme qui vivait dans ce réduit à 7 mètres sous terre, est le fils de Françoise Bolesteros, décédée en 2004. Et Guy Vidal a disparu de la circulation en 1991.
Oui, alors, bon, il a disparu en 1991. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 1991 ? Peut-être que Guy Vidal a un jour décidé de quitter sa vie. D'où sa disparition, d'où le fait qu'on ne puisse pas expliquer ce qu'il a fait à partir de 1991. Il y a là quelque chose de proprement vertigineux, enfin, vraiment inexplicable.
Mais vous admettez en quelque sorte l'idée d'une disparition plus ou moins volontaire. On est à la daille.
Je serais tenté de l'admettre, oui. Bon, encore une fois, tout ça, comme je le disais il y a un instant, est proprement vertigineux au sens où toutes les spéculations sont possibles et tout est admissible d'une certaine façon, mais jusqu'à ce que peut-être un jour on tombe sur ce qui était la seule vraie variante, le seul ordre de coup, ce qui s'est véritablement passé. Mais a priori, je serais tenté de penser à une disparition volontaire, effectivement. Alors, volontaire, de son propre chef, ou peut-être qu'il a, et ce serait la disparition consentie, qu'il a disparu de son propre chef, mais contraint par un ensemble de circonstances qu'on ignore, qu'on ne peut pas forcément imaginer. Maintenant, bon, si c'est bien son squelette qui se trouvait dans le réduit, comment ça s'est produit, ça c'est... Là encore, ça reste très mystérieux.
Il y a une caractéristique de cette histoire, Jean-Christophe Muller, c'est que à chaque fois qu'on introduit un élément nouveau, la perplexité augmente et la solution qu'on espère s'éloigne de plus en plus.
Vous avez raison, mais le premier élément, c'est effectivement, au sens médico-légal, les causes du décès. Ça, c'est la première incertitude. Bon, il est possible d'éliminer, compte tenu de l'état de conservation mauvais des restes, il est possible d'éliminer un certain nombre de causes comme étant celles du décès, mais il n'est pas en l'état possible d'affirmer qu'il a été causé par telle ou telle circonstance. Ça, c'est effectivement un premier point de perplexité.
Ce qu'on suppose en priorité, c'est asphyxie, électrocution peut-être, et empoisonnement. Mais des empoisonnements, il y en a de toutes sortes.
Électrocution et asphyxie, ce sont effectivement les premiers auxquels on pense, premièrement en raison de la conformation des lieux, et deuxièmement en raison de l'équipement électrique, à vrai dire assez intrigant, qui figure, qui existe encore dans ce souterrain.
Qu'est-ce qui est mystérieux pour l'instant ? Mystère sur l'identité de la personne. En admettant que ce soit Guy Vidal, mystère sur l'identité de son père et comment est-ce que cet homme a pu disparaître pendant des années et comment est-ce qu'il peut se retrouver là, comment est-ce qu'il vivait là, etc. Bon, déjà beaucoup de choses. Mais en plus, et en admettant qu'on soit donc dans cette idée que cet homme est Guy Vidal, en plus, qu'est-ce qu'il faisait dans cet accoutrement ? Et avec tous ces livres autour de lui. La question de la disparition de cet homme, en fait, pendant des années, de l'identité de son géniteur, du rapport avec sa mère ou avec sa demi-sœur, et puis ce deuxième chemin, qui est le chemin sexuel, hein, pour vraiment faire simple, je pense que c'est autre chose. Mais c'est autre chose qui vient aussi soutenir quelque chose que j'évoquais plus tôt, c'est-à-dire l'idée que pour moi, cet endroit était plutôt un lieu de retraite qu'un lieu de vie permanente, une espèce de boudoir un peu sadien, mais c'est peut-être un peu osé comme comparaison en l'occurrence, mais en tout cas, bon, l'idée d'un lieu de retraite ou récréation au sens très large du terme. Mais à mon avis, pas vraiment un lieu de vie. À moins que, évidemment, cette tenue, etc., ce porte-jartel, bon, tout ça est très surprenant. Et évidemment, la question qui se pose, c'est la question des circonstances de sa mort. Bon, alors, accident, suicide, bon, la piste criminelle donc, semble écartée, donc accident ou suicide. Peut-être accident. Et on serait dans une espèce de jeu, éventuellement jeu érotique, dangereux, type jeu du foulard par exemple, ou qui se serait mal terminé. C'est une possibilité.
Les causes de la mort de cet individu, Michel Durigon, peuvent être, enfin on suppose, que ce serait parmi ces trois possibilités, asphyxie, électrocution ou empoisonnement. Quelles ressources on a à choisir dans ces trois possibilités ?
Alors, on va les prendre une par une. Asphyxie, alors on peut imaginer, vous avez décrit qu'il était habillé avec des habits qui ne correspondaient pas à son sexe. Donc, il y a toutes les histoires sexuelles qui peuvent exister. Et souvent, les gens qui s'habillent de cette façon s'asphyxient. C'est un peu l'équivalent du jeu du foulard où s'étouffent pour avoir des sensations sexuelles. Donc, ils peuvent mourir d'asphyxie. Qu'est-ce que ça donne comme signe sur le cadavre le cadavre en bon état? On peut faire le diagnostic assez facilement. Sur un cadavre comme ça, momifié, squelettisé, il ne reste plus de tissus qui permettent de faire de diagnostic, et on a quelques signes, quelquefois, par exemple, les dents, on parle souvent des dents rosées, les gens qui asphyxient sont hyper congestifs au niveau de la face, surtout s'ils sont étranglés ou asphyxiés au moyen d'un lien, donc ils peuvent avoir les dents très roses vives. Donc ça peut se voir encore, ça se voit même assez bien sur le cadavre.
Ça perdure plusieurs lustres.
Ça perdure plusieurs lustres, oui, tout à fait. C'est fixé puisque c'est une espèce d'hémorragie qui se produit dans la dentine. Donc les dents deviennent roses, rouges assez fort. Et ça reste très très longtemps. Mais ça n'est pas sûr, hein. C'est un signe possible, indicatif, mais pas du tout de certitude. Qu'est-ce qui peut se produire également? Si on est étranglé, on peut avoir une rupture du cartilage thyroïde, de l'osioïde. Mais ce sont des structures qui sont fragiles, partiellement cartilagineuses. Donc quand le cadavre est putréfié et squelettisé, on ne verra plus, on ne pourra plus savoir. Et donc on n'a pas d'autres éléments pour l'asphyxie. L'électrocution, les signes déjà ne sont pas faciles sur un cadavre en bon état. sont essentiellement basées sur les marques cutanées, le passage du courant qui brûle, hein, qui va faire une petite brûlure. Là, on ne verra plus. Les téguments ont dû disparaître ou sont parcheminés, momifiés, donc on ne peut plus savoir. Donc il reste l'empoisonnement. Alors l'empoisonnement, oui, bien sûr, mais là, il faut trouver un petit peu de matériel biologique pour pouvoir faire des études toxicologiques. Alors au niveau de l'os, on peut imaginer qu'il reste un petit peu de moelle osseuse et de sang un peu desséché au niveau de la moelle osseuse. On peut peut-être rechercher des toxiques, mais là encore, au bout de plusieurs années, les toxiques qui tuent souvent se détruisent aussi, se métabolisent eux-mêmes. Donc on ne pourra plus les identifier avec certitude. Donc la toxicologie, pas complètement inutile. On décrit aussi quand il y a des insectes autour ou des vestiges d'insectes, on peut faire la toxicologie sur les insectes, puisque eux-mêmes ont mangé le cadavre et donc ont pu s'intoxiquer et en tout cas se charger de poison. Mais là, apparemment, il n'y avait pas une foultitude d'insectes autour de lui. Donc c'est sans grand espoir.
Je ne sais pas. Je suis perplexe devant tout ça. Enfin. Mais. Je ne sais pas. Je sais pas. Tout ça, ça reste énigmatique.
Et la dernière fois que vous avez vu Guy, vous vous souvenez de l'entrevue, Gabriel Roulin?
Oui, il a mangé à la maison. Vous savez, on a parlé de beaucoup de choses. Rien ne laissait présager qu'un jour on serait confronté à une telle issue. Je vous dis, c'est un garçon vivant, un peu farfelu à la limite des fois, mais vous savez, la jeunesse, elle est ce qu'elle est. Et chaque fois, il nous disait, à l'année prochaine. Voilà. Il était brun, plutôt châtain brun. Il était agréable à parler. Il zozotait un petit peu. Il avait un défaut de langue. Mais enfin, ça lui rendait quand même ce côté agréable pour des jeunes. Il passait bien ici avec les jeunes du village. Je veux dire que tout paraissait aller dans le bon sens. C'est pénible, ces choses-là, hein, de voir que. Enfin.
Donc, en fait, en 91 ou 92, à l'été, vous vous attendiez à le voir arriver au moment de la fête du village.
On pensait.
Et le fait qu'il ne vienne pas vous a inquiété tout de suite ou...
Ah ben, on a dit, qu'est-ce qui se passe? Je savais que les relations, à ce moment-là que la mère avait divorcé, les relations avec son beau-père étaient assez tendues. Bon, il y avait quand même sa demi-sœur. Alors, c'est quand même une situation, vous le comprenez, très délicate, dans laquelle on laissait courir, on ne pouvait pas s'immiscer dans leurs affaires. Donc il n'est pas revenu et on a dit, tiens, Guy ne revient pas, qu'est-ce qui se passe?
Et il habitait où?
Ah, bonne question, je ne peux pas vous dire. Même ses proches ne le savaient pas, je crois. Et je m'interroge encore, pourquoi l'être humain peut en arriver à une telle issue, hein?
Pourquoi et comment?
Ah oui, pourquoi et comment? D'où le grand mystère qui le restera jusqu'à la fin. Moi, ça m'attriste beaucoup et je m'interroge, je m'appelle. C'est pénible.
La seule chose dont on soit sûr, grâce à un certain nombre d'éléments qui ont été retrouvés dans les affaires donc de la mère, c'est qu'elle souffrait psychologiquement de l'absence de son fils. tout le reste, savoir si elle était au courant de l'existence de ce réduit, de savoir si elle était au courant que son fils s'y rendait, de ce qu'elle en avait connaissance, malheureusement est quelque chose qui est encore de l'ordre du mystère, comme est encore de l'ordre du mystère, et j'y reviens, le fonctionnement familial, si on peut parler comme ça, de cette famille, aussi bien au regard de la paternité de celui qu'on suppose être Guy Vidal, que du fonctionnement même de la cellule familiale éclatée, semble-t-il, il y a fort longtemps.
Les protagonistes de cette affaire ont une vraie vie sociale et professionnelle, qui n'est peut-être pas aussi développée que chez la majorité d'entre nous, mais... ils ont un comportement social normal et classique. La mère a été institutrice puis psychologue scolaire. Guy Vidal a fait des études apparemment à Toulouse ou à Bordeaux, couronné de succès.
C'est d'ailleurs dans des conditions entre guillemets tout à fait normales que cette affaire s'est révélée, puisqu'après le décès de la mère, c'est sa fille qui a hérité de la maison et qui, à la faveur de travaux, s'est aperçue de l'existence de cette cavité. Donc j'allais dire que là, tout à fait classique, et en tout cas ça n'appelle pas d'inquiétude ou d'observation. Simplement, et là on revient peut-être à cette problématique du fait divers, ou de ce qui peut être ou non la normalité des choses, des gens ou de leur comportement, on constate qu'un certain nombre de choses, qu'un certain nombre de constats objectifs démontrent que derrière les gens, leur façade sociale, leur comportement individuel, eh bien, il y a ce que j'essayais d'appeler des fonctionnements individuels, des fonctionnements familiaux, des choses qui sont, qui renvoient à bien autre chose que ce que les gens peuvent être socialement. Et c'est ce qui fait l'intérêt de cette affaire.
Se dire que Françoise Bolesteros, la mère de Guy Vidal, savait que cet homme vivait sous ses pieds. Ensuite, est-ce qu'elle a su qu'il y est mort? Est-ce qu'elle a su qu'il y était mort?
À mon avis, effectivement, elle savait qu'il vivait sous ses pieds. Deuxième question, savait-elle qu'il y était mort? Je pense qu'il y a, il y a un détail important, c'est que la voie d'accès à ce réduit était un boyau très étroit. Et cette dame était trop corpulente pour pouvoir emprunter ce boyau et donc se rendre dans le réduit. Donc, peut-être qu'à un moment donné, elle n'a plus eu de nouvelles de son fils, sachant qu'il était probablement là. Peut-être qu'elle a craint le pire. Et c'est là où...
Et qu'elle a fini par en être convaincue.
Qu'elle a fini par en être convaincue, mais c'est là aussi où les choses deviennent tout à coup plus compliquées. C'est que, vous savez qu'un de vos proches vit dans une cave sous la maison. Vous pensez qu'il lui est arrivé malheur, peut-être. A priori, vous prévenez des secours. Alors, si tel est le cas, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas prévenu les secours? Pourquoi est-ce que... n'ayant plus de nouvelles de son fils, pouvant prévoir de jour en jour que quelque chose probablement de grave s'est produit, pourquoi est-ce qu'elle ne fait rien et qu'elle reste là à attendre, en fait? C'est qu'il y a quelque chose à cacher, peut-être. Alors, on peut imaginer cette dame, d'abord, mourant avec son secret, pour le coup, et puis on peut imaginer cette angoisse au jour le jour et cette hésitation, et puis peut-être de jour en jour après la tentative pour oublier, en fait, et pour se dire que finalement, pour faire son deuil, au sens propre du terme, et se dire que la sépulture de son fils, si c'était son fils, c'est là, sous la maison, et qu'elle seule le sait. Si le cœur de cette chose, c'est la relation d'une mère à son fils, il est difficile aussi de ne pas voir dans ce réduit une sorte d'utérus, évidemment, et une espèce de retour du fils dans l'utérus, une espèce. Et bon, et j'ouvre une parenthèse, mais on ne sait rien du géniteur, donc de Guy Vidal, et on pense que peut-être il est issu d'un viol. Et on pense aussi que sa mère aurait tenté au début de cacher sa naissance. Donc il y aurait aussi une espèce d'effet de clôture, en fait, où l'histoire se terminerait pratiquement comme elle a commencé, c'est-à-dire que la mère cache la naissance du fils, au sens propre du terme, et le fils meurt dans l'utérus. Il est quasiment mort-né, d'une certaine façon. Mais là, bon, je me laisse aller avec mes hypothèses.
Cette affaire apporte quelque chose à l'homme de droit que vous êtes, Jean-Christophe Muller ?
L'intérêt juridique pénal, au sens strict du code pénal, serait lié à l'éventuelle prescription des faits s'il s'avérait que le décès avait une cause suspecte, à l'éventualité d'avoir recours à des qualifications d'enlèvement et de séquestration pour permettre de contourner la prescription des faits s'il s'avérait qu'on puisse avoir affaire à un homicide. Donc voilà, si vous voulez, du point de vue théorique et strictement juridique, le contexte de cette affaire. Maintenant, sur j'allais dire les enseignements qu'on peut en tirer sur le fonctionnement des gens ou de la société ou des choses de cet ordre-là, c'est effectivement très 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 pénétrant. On pourrait être tenté de faire une comparaison ou d'utiliser l'image de la vie à la surface et de son négatif comme étant la vie sous la surface du sol, d'essayer d'avoir cette approche inversée. Il y a la réalité sociale de surface et puis la réalité individuelle que l'on retrouve dans le sous-sol. Je dois dire que c'est une perspective assez intéressante et qui pose beaucoup de questions, là aussi, et j'y reviens, sur les fonctionnements individuels, familiaux, par rapport à ce que l'on est socialement, individuellement, avec son métier, sa profession, ses voisins, ses amis, etc. Donc un monde de l'apparence et un, je dirais, apparent des relations sociales, et puis un monde caché, en sous-sol, qui révèle d'autres fonctionnements.
Et si toute cette histoire était complètement inventée, Jérôme Schrepf, ça vous est passé par l'esprit, cette éventualité-là ?
Non, j'ai jamais pensé à ça. La chose qui pourrait se produire, c'est que le squelette ne soit pas celui de Guy Vidal. Ça, j'y ai pensé.
Alors là, le vertige est encore plus important.
Ouais, là, c'est même... Ouais, c'est même encore plus vertigineux, effectivement, parce que ça pose immédiatement deux questions. C'est de savoir qui est mort dans ce réduit. Évidemment, ça se pose la question de savoir comment. Et puis, tout de suite derrière, on se retourne à nouveau vers Guy Vidal, qui est quand même au centre de cette histoire. Et on se demande où il est, ce qu'il est devenu. Et effectivement, ça donne le vertige.
L'homme qui vivait dans sa tombe. Avec René Alladaye, universitaire, spécialiste de littérature américaine, Michel Durigon, professeur de médecine légale, Jean-Christophe Muller, procureur près le tribunal de grande instance d'Albi, Gabriel Roulinc, maire de Bar, Jérôme Schrepf, journaliste à la Dépêche du Midi. Merci à Frédéric Bourgade. Documentation Christine Gage. Le vif du sujet, Yvon Croisier, Olivier Chaumel.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 16 mai 2006. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.